Ce n'est pas rien ce que nous venons d'entendre de la part de notre frère, de notre cher frère Jacques. Et je vais reprendre le psaume 32 qu'il nous a lu, dans lequel il nous a introduit. Un psaume qui nous fait découvrir le bonheur qu'il y a d'être pardonné, l'immense grâce de Dieu. Alors, prenons ensemble la parole de Dieu, encore dans ce psaume 32. Et c'est David, le roi David, qui l'a écrit. Le roi David, à qui l'on connaît une période de sa vie bien noire, bien loin de Dieu, dans l'adultère. Un adultère qui va le conduire au meurtre. Et puis, à l'intérieur de lui-même, parce que c'est un homme qui, du plus profond de son cœur, authentiquement, aime Dieu. David est un homme qui aime profondément Dieu, sincèrement Dieu, et qui en même temps est tombé, s'est éloigné, et il est rongé, rongé à l'intérieur de lui-même, jusqu'à ce qu'il soit délivré et libéré. Lisons ce que le roi David nous transmet de la part de Dieu. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me taisais, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Ce passage nous fait connaître l'immense grâce pour d'immenses pécheurs. Une immense grâce pour d'immenses pécheurs. Et bien des années plus tard, dans le Nouveau Testament, nous trouvons une grande pointure de l'Évangile. L'apôtre Paul lui-même qui va être ce prédicateur de la grâce et qui va prêcher l'immense grâce pour des immenses pécheurs. Prenez avec moi 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1, premier épître de Timothée au premier chapitre, où Paul veut parler de cette immense grâce pour d'immenses pécheurs. Et voici ce qu'il dit. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Oui, Paul dit, vous savez, à travers moi, vous pouvez voir l'immense grâce pour un immense pécheur. Oh, quelques versets avant, Paul dit, j'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. À l'intérieur de son être et de son cœur, Saul de Tarse était rempli de tas de démons, ai-je envie de dire. Des vieux démons, de longue date. Et voilà pourquoi il a accueilli avec bonheur, ce bonheur du roi David qu'exprime le psaume 32, l'immense grâce pour un immense pécheur. Et puis, il se tourne vers les autres et il dit, si Dieu a pu me pardonner à moi le premier, venez, venez en foule vers le Sauveur pour lui dire, pour lui confesser et pour qu'il vous libère. Alors le péché est une immense toile d'araignée. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Hébreux 12. Hébreux, chapitre 12, au verset 1. Nous lisons un encouragement avec une si grande nuée de témoins. Des témoins d'immenses pécheurs qui ont été immensément graciés. Et dis-nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ces fameux témoins de la foi d'Hébreux 11, oh, pas des hommes parfaits, mais des hommes qui ont su trouver le Dieu qui sauve. Or, puisque nous avons une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Voilà une expression, ce péché qui nous enveloppe si facilement, comme cette toile d'araignée, le péché tisse sa toile un petit peu de partout, autour de nous, il nous entoure, il nous englobe, et puis, rapidement, il fait de nous sa victime. Péché, c'est quelque chose de complexe. Et le parcours d'un apôtre Paul, d'un roi David, et d'autres, de notre frère ce matin qui nous parle. Nous devons sans doute le comparer à ce parcours de cette femme qui croise un jour la route de Jésus. Cette femme adultère, prise en flagrant délit et qui est amenée par les religieux juifs pour régler la question à coups de pierre. Ils sont là pour jeter des pierres. Jésus est celui qui connaît tout. Oui, cette femme est coupable, assurément. Mais qu'en est-il de ce qui l'a amené là? Nous l'ignorons. Jésus le sait. Peut-être avons-nous affaire à une femme qui a été mariée dès ses 13 ans, sans consentement, à un homme bien plus âgé, autoritaire, tyrannique et violent. Peut-être subit-elle de la violence conjugale tous les jours. Nous sommes dans quelque chose d'éminemment plausible. Et voilà que cette femme est allée chercher du réconfort et de l'affection dans d'autres bras. Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Il ne jette pas la pierre. Pourquoi ? Parce que Jésus, plus que tout le monde, sait à quel point le péché est complexe. Comment nous nous construisons intérieurement, dès l'enfance, avec une toile d'araignée, ce péché qui nous enveloppe si facilement. Et seul le Seigneur est capable de faire la part des choses entre le péché dont nous avons été victimes dans notre enfance, dans notre construction de la part des autres, et qui, comme peut-être cette femme adultère, et puis là où notre responsabilité se place, qui d'entre nous peut avoir ce discernement de dire là c'est ta responsabilité et là oui, si j'avais été moi-même construit avec ton histoire, avec ton enfance, avec ce que tu as vécu dans la vie, je ne suis pas bien sûr que j'aurais mieux piloté ma vie et mon cœur. Là, nous sommes dans le jugement de valeur. Seul Dieu peut dire ces choses. C'est pour ça qu'il dit ne jugez rien avant le temps. Il y a des choses secrètes que le Seigneur lui sait. Néanmoins, une restauration est nécessaire, une confession est nécessaire. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Ça, c'est le juste équilibre de ce que Dieu nous dit. Ni complaisant envers le péché, ni tyrannique à lapider, quoi qu'il en soit. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Il sait combien le péché nous enveloppe si facilement, combien le péché, dès le ventre de ma mère, et c'est une prière de David, dans une prière, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché, dès le ventre de ma mère, je suis déjà tordu. Le Seigneur le sait. Et il veut nous trouver notre cœur pour nous sauver, pour nous pardonner et pour nous guérir. Alors, c'est là une deuxième chose que j'aimerais partager avec vous ce matin, sans doute la plus importante. Et la question est la suivante. Est-ce que la confession de mon péché entre moi seul et Dieu est suffisante? Et là, je réponds, suffisante pour être pardonné? Oui. Suffisante pour être guéri? Souvent non. Nous avons dans notre milieu évangélique peut-être parfois jeté le bébé avec l'eau du bain. Et oui, lorsqu'on revient à cette pratique de la confession dans le catholicisme, et on se dit, oh là là, on ne va pas se confesser à un prêtre, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, oui, ok. Et pour être pardonné, nous n'avons pas besoin d'autre médiateur que Jésus-Christ. Amen. Oui, mais ce n'est pas si simple. Je vous invite à lire deux passages. Le premier, en acte 19, qui vont nous aider ce matin à peut-être mieux percevoir et diriger notre vie concernant le fardeau de ce péché qui nous enveloppe si facilement. Est-ce que Juste, ça reste entre Dieu et moi. Personne d'autre ne le saura, surtout pas. J'ai honte. Et puis, Jésus fait tout. Je me contente de notre dialogue, de notre duo, c'est lui et moi, et c'est suffisant. Eh bien non. En acte 19, premier passage, voilà bien des conversions à Éphèse. Et nous voyons verset 18 et 19, la chose suivante. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Voyons là un passage où il y a de nombreuses conversions et plusieurs éprouvent la nécessité et le besoin de venir aux pieds des apôtres pour confesser, pour déclarer ce qu'ils avaient fait. Et le verset suivant, qui concerne un exemple, la pratique des arts magiques, où il est dit, verset 19, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Des témoins. Il y a ici des témoins de dire, voilà, dans ma vie, je me suis fracassé contre tel écueil, je me suis abîmé à tel endroit, et je viens et je mets des mots et je le verbalise et je pose auprès de serviteurs de Dieu. Je viens de déclarer, confesser ce que j'ai fait. Pourquoi? Parfois, on se dit, mais attends, on se convertit, tout ce qui est avant la conversion, ça y est, c'est sous le sang de Christ, pas besoin de raconter sa vie. Mais le péché, c'est tellement complexe. Vous croyez que si vous étiez un homme violent qui fracassait sa femme avant votre conversion, du jour au lendemain, toutes vos constructions intérieures vont être changées? Ce n'est pas vrai. Vous croyez que lorsque vous avez été abîmé dès l'enfance dans votre perception de la sexualité, peut-être par des revues pornographiques, par des attouchements, vous croyez que du jour au lendemain, ça se transforme à l'intérieur? Non. On est pardonné. Mais on n'est pas guéri. Et ici, il y a une étape essentielle qui est que ces croyants, ils savent qu'il y a eu des choses tellement ancrées dans leur vie, cette toile d'araignée, et ils se disent, non, ce n'est pas quelque chose que je peux gérer, juste moi et Dieu. J'ai besoin de le confesser, de le dire à quelqu'un, à un serviteur de Dieu qui va pouvoir m'accompagner, qui va pouvoir prier pour moi et qui va pouvoir faire une œuvre pastorale. On le trouve en Jacques. Jacques 5. Cette fois-ci, dans Jacques, il ne s'agit pas des nouveaux convertis, il s'agit des chrétiens. Et des chrétiens qui, dans leur marche chrétienne, peuvent chuter. Qu'est-ce qu'on trouve de fondamental dans cet épître de Jacques? Prenez avec moi Jacques au chapitre 5. Jacques 5, verset 16. Nous sommes dans un contexte où quelqu'un qui ne va pas, malade ou dépressif, pas bien dans son âme, pas bien dans son corps. Sans doute dans l'état de David, dans le psaume 32, où il dit « Tant que je me taisais, mes os se consumaient. J'étais desséché à l'intérieur de moi-même comme en plein été. » Et voilà que cette personne vient chercher du secours auprès des anciens de l'Église, auprès de personnes dont l'ancrage avec Dieu va pouvoir être suffisant pour les supporter, être un support pour les porter et pour devenir des équipiers. Et le verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Et il y a une différence fondamentale, et ici c'est vraiment le mot « guéri ». C'est pas le mot « sauvé », c'est pas le mot « pardonné ». Chaque fois que j'ai péché et que je dis au Seigneur « Seigneur, je te demande pardon », le Seigneur pardonne, il pardonne. Et il pardonnera une fois, trois fois, cinq fois, jusqu'à 70 fois, sept fois. Oui? Oui? On se dit, 70 fois, sept fois, à continuer mon péché, il y a bien un moment où j'ai besoin d'une guérison, d'une libération. Je pêche, je confesse au Seigneur, je recommence. Et voilà qu'il y a ce secours. Le Seigneur nous donne les uns aux autres et il donne à l'Église des serviteurs pour pouvoir être guéri, pour pouvoir prendre ce chemin de la guérison, cette toile d'araignée du péché qui a été tissée souvent, la plupart du temps, en partant de notre enfance. Il a besoin d'une guérison. Et le texte nous dit la prière agissante du juste a une grande efficacité. Il ne s'agit pas d'aller trouver un pote non chrétien et de lui dire j'ai quelque chose sur le cœur, je te le raconte. Il ne peut rien pour lui. Ou d'aller trouver simplement un chrétien comme ça, peut-être dans l'église, mais qui n'a pas les épaules d'Élie. Verset 17, Élie est un homme, de la même nature que nous, avec des travers dans sa vie, dans son cœur, mais qui avait rencontré la grâce de Dieu, qui avait saisi la victoire, et qui pouvait en amener d'autres et accompagner. Et il y a tout un travail d'accompagnement, de restauration, de guérison qui est nécessaire, et que le verset 19 décrit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est extraordinaire lorsqu'on peut prendre un chemin de guérison, mais ça passe par le fait de venir confesser ses péchés les uns aux autres. Ici, d'après les anciens. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas envie parce qu'il faut se dévoiler. On a honte. Et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Quel va être le regard qui est porté sur moi, même si ça reste en petit comité, même si c'est que le pasteur? Ah! Et nous, quel est notre réflexe? On a vite fait de dire, c'est entre Dieu et moi. C'est suffisant. J'apporte mon péché à l'Éternel, je lui confesse, et il n'y a pas besoin d'en parler. Faux. Pas besoin d'en parler pour être pardonné, je vous l'accorde. Mais dans bien des situations, pas suffisant pour être guéri. Alors la grande question, c'est est-ce que nous voulons être guéris? Il y a des boulets que nous portons, que nous traînons depuis des années. Il y a des choses qui sont dans notre mémoire. On a demandé de tout notre cœur pardon au Seigneur et nous savons que nous sommes pardonnés. Néanmoins, il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer, de grandir quand même, d'être engagé, d'être libéré. Libéré. Et parce que nous ne franchissons pas le pas, il faut beaucoup d'humilité pour le faire. Et je salue l'humilité de notre frère. Le courage. Beaucoup d'humilité pour venir et dire à un frère, à une sœur spirituelle qui pourra faire un travail pastoral, écoute, j'ai quelque chose à te dire, j'aimerais en parler. Je l'ai confessé au Seigneur, ça fait bien longtemps tout ça. Néanmoins, je sens qu'il y a quelque chose qui reste là. Il y a un truc. Je suis pas guéri. Je sens que ça m'empêche d'avancer, partiellement. Et j'ai besoin de le verbaliser. J'ai besoin que tu sois témoin et j'ai besoin que tu deviennes un coéquipier dans la prière parce que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Ça, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile à faire. Et on trouve toutes sortes d'excuses et de raisons pour ne pas emprunter ce chemin. Et on préfère gérer ça dans le secret entre nous et Dieu. Mais la plupart du temps, ce n'est pas suffisant. Je loue le Seigneur de ce que, très jeune, le Seigneur m'a coincé pour vivre une telle situation où je n'ai pas eu d'autre choix que de parler, d'avouer, de dialoguer avec les anciens de mon Église concernant des choses bien des années antérieures, quand j'étais mineur, néanmoins, et que j'avais réglé, pour lesquelles j'avais demandé pardon, mais qui restait en fait un pardon. Pourquoi n'ai-je pas eu le choix? Parce qu'un jour, la police nationale frappe à votre porte et vous convoque au commissariat. Là, je vois mes filles sur Zoom, elles se sont dit « Ah bon, papa, t'as le commissariat ?» Ouais. Je vous raconterai un jour. Oui. Et là, la réalité vous rattrape, même si quelques années sont passées, il faut déballer. Pas facile. Pas facile parce qu'on a contourné, personne ne s'est aperçu. On a navigué. Et on a demandé sincèrement pardon au Seigneur, mais on n'est pas guéri. Et je vous affirme qu'on n'est pas guéri. Et c'est pour ça que je loue le Seigneur, parce que il m'a coincé pour être obligé de passer par ce chemin d'avoir des coéquipiers envers lesquels je puisse parler, faire le point spirituel, simplement dire, verbaliser. Et qui m'ont donné du coup des paroles auxquelles je ne m'attendais pas et qui m'ont construit. Vous savez, il y a des rendez-vous spirituels qui sont fondateurs. Lorsqu'il faut passer, concernant quelque chose de spécifique, par cette confession de Jacques V, ne ratez pas le rendez-vous. Si vous ratez ce rendez-vous, vous serez pardonné. Guérir. Je loue le Seigneur de ce que il m'a obligé à passer par là, et c'est formidable, même si c'était un des moments les plus compliqués de ma vie, émotionnellement. Mais je ne serais pas devenu le chrétien que je suis devenu sans ce rendez-vous-là. Parce que la restauration et la guérison se construisent en équipe, avec des serviteurs du Seigneur, avec des justes, parce qu'elle se construit dans la vérité. Ne pas craindre la vérité, c'est mon troisième et dernier point. Ne pas craindre la vérité. Éphésiens 4, 25. En Éphésiens 4, 25, on va lire plusieurs passages qui ont trait à la vérité. Parce que dans notre sagesse populaire, on dit « Oh, toute vérité n'est pas bonne à dire. » Oh, la vérité, oui, mais est-ce bien utile? Ça va faire du mal à mes proches, ça va leur faire du mal. Allez, on a réussi à naviguer, c'est réglé, c'est réglé entre moi et Dieu, ne disons rien. Ça leur ferait mal. C'est ça la sagesse populaire. En Éphésiens 4, verset 25, il dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est fondamental. Oui, parce que dans nos errements, dans notre vie, on navigue, et puis bien sûr, on ment, on cache la vérité, on s'arrange avec la vérité. Que chacun parle selon la vérité à son prochain. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il ne s'agit pas simplement de les dire juste à Dieu en aparté. Ça, Seigneur, ça reste entre nous, je sais que tu es un confident fiable, ça ne sortira pas. C'est la vérité qui construit. Là où il y a besoin que la vérité soit dite, il faut qu'elle soit dite. Et tant qu'on est dans cette attitude un petit peu qui est vague, qui navigue, qui cache, on a réglé entre nous et Dieu, mais surtout, on veut garder devant tout le monde une face, et on se cache. Et on passe sa vie à se cacher. Et il y a le juste équilibre. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Est-ce qu'on veut devenir des chrétiens, des chrétiennes qui avancent dans leur vie, qui construisent solidement, qui prospèrent de la même manière que Paul pouvait dire à son bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Autre Jean. Éphésiens 6, 14. Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme. Voilà l'armure du chrétien. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture, voilà peut-être un deuxième rendez-vous spirituel qui est fondateur. Et s'il y a un moment, il faut passer par là, on passe par là. Voilà peut-être le deuxième moment le plus difficile de ma vie. Je suis un tout petit peu plus âgé. Jeune encore, mais certains événements avaient fait que j'avais navigué, je n'avais pas agi avec droiture. Mais personne ne s'en est aperçu. On navigue, on s'arrange, et c'est réglé. Pas de mal. Et puis je règle ça entre Dieu et moi. Seigneur, je te demande pardon, et sincèrement, attention. Et puis, quoi bon retourner voir les gens à qui ils sont concernés, à qui on a menti peut-être, on a pour dire la vérité. Bon, ça m'a suffi, je me suis arrangé comme ça pendant quelques années, et puis ça me travaillait quand même. Et un jour j'ai lu un roman, absolument pas chrétien, et Dieu m'a parlé par ce roman. C'était un roman qui détaillait la complexité des liens familiaux et relationnels et professionnels, etc., de toute une famille. C'était la saga d'une famille à travers plusieurs générations. Et en fait, il y avait des non-dits, du mensonge, des choses cachées qu'on ne dit pas. Et dans ce roman, on voyait comment finalement ces choses cachées, ces choses non dites, ces choses, ces vérités qu'on n'a pas le courage de donner à un moment pour régler, même si en son fort intérieur, là je rajoute, on demande pardon au Seigneur de tout son cœur. Comment en fait, eh bien, ce qui est caché, secret, détériore et abîme. Il n'y a que la vérité qui a franchi. Amen. Et dans ce livre, je pose le livre. je me dis cette fois, allez, il faut que je revienne sur tel événement et que j'aille dire, confesser la vérité. Et le verset qui a résonné dans mon cœur quand j'ai lu ce roman, c'était « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Et le Seigneur m'a convaincu en me disant « Adrien, tu ne marcheras, tu ne pourras jamais marcher droit, te tenir droit dans la vie avec Dieu. Jamais !» Si tu ne reviens pas. Bon, mais ça c'est un moment difficile. Peut-être le deuxième, je vous dis, le plus compliqué. Émotionnellement, parce qu'il faut dire les choses. Ça coince. Vous savez, je ne serais jamais devenu pasteur si je n'étais pas passé par ces deux rendez-vous fondateurs. Jamais. On passe par là, il faut accepter de passer par là, s'il y a besoin, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir grandir dans le Seigneur, pour se tenir droit, et pour honorer Christ dans sa vie. Je loue le Seigneur de ce qu'il a permis, il m'a contraint aussi de passer par là. Et parfois, c'est une grâce du Seigneur, lorsque, comme le roi David, eh ben, on est découvert, on n'a pas le choix. C'est une grâce du Seigneur. Il nous dit, tu vois mon gars, je ne vais pas te laisser passer 20 ans, 30 ans à traîner ce boulet derrière toi. On va le régler maintenant, ça va faire mal. Mais tu en seras heureux pour toute ta vie. Oui, la vérité fait souvent et elle libère les captifs. Et en Jean 8, 32, nous voyons ce principe de manière plus élargie. Vous connaîtrez la vérité, dit Jésus, et la vérité vous affranchira. Ne croyez pas, frères et sœurs, que vous serez affranchis, libérés, guéris dans votre âme sans passer par la vérité. Et s'il y a des personnes à qui il faut dire la vérité, dites la vérité, même si ça fait longtemps. Voyez, je prends un exemple d'un enfant dans une école qui aurait volé la coopérative scolaire. Ça s'est passé chez moi cette année. J'invente le reste. Nous voyons cet enfant qui rentre chez lui, il a volé la coopérative, et comme c'est une somme quand même importante, la maîtresse, le directeur, ils essayent de mener leur enquête, ils posent des questions, et... Ah ben non, moi je suis au courant de rien. Parlent aux parents, ils font un courrier aux parents, disant, écoutez, essayez de voir si votre enfant ne sait pas quelque chose. Voilà le papa du garçon qui dit, tu as entendu quelque chose, toi, à propos de cette coopérative, cet argent qui a été volé. Il lui dit pas, c'est toi. Il dit, tu sais quelque chose Ah non, je sais rien. T'as pas des copains qui t'ont dit des trucs? Non, moi, vraiment, rien. Puis vous avez, quelques jours plus tard, le grand frère qui, par hasard, je ne sais pas ce qu'il farfouillait dans la chambre, mais il trouve pas mal d'argent. Il se dit, oula, ça c'est la coopérative scolaire. Il ne veut pas que le petit frère se fasse disputer par les parents, alors il lui dit, il va le voir, oui, là j'ai trouvé ça. Non, c'est pas moi, arrête, c'est pas moi. Tu l'as gagné où? Tu travailles où, toi, pour gagner cet argent? Bon, là, le petit frère fond en larmes, il est effondré, il pleure, il confesse tout à son grand frère, il dit, c'est moi, je regrette. Bon. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le grand frère peut lui dire quoi? Écoute, tu vas remettre incognito l'argent, tu le remets sur le bureau du directeur. Personne n'en saura rien, c'est réglé, c'est une histoire entre toi et moi. Oui, mais enfin, il a menti à ses parents, il a menti à tout le monde. Et il y a un travail dans le cœur Il sera pardonné, mais il ne sera pas guéri. Il y a un travail à faire dans le cœur de cet enfant. Et ce n'est pas le grand frère qui est en mesure de faire ce travail de berger pour le cœur de l'enfant. Ça, c'est le travail des parents. C'est leur job. C'est leur job, les parents. D'inculquer des valeurs, de corriger des choses, de parler au cœur de leur enfant, etc. C'est leur job, c'est leur position, ils ont autorité pour le faire. Seulement le petit, tu vois, il balise d'aller voir papa, maman. Là, tout d'un coup, papa et maman, ils ont un peu cette place des méchants. C'est drôle, le directeur, les parents, le pasteur, ils ont toujours la place du méchant. Tu sais, t'as toujours peur d'aller les voir pour leur dire le truc. Eh oui, tu vas passer, tu te dis, je vais passer un sale quart d'heure, c'est, là, ils vont me redresser, et puis, parce qu'on a besoin. Vous savez, cet enfant, il va falloir qu'il affronte la vérité. Il va falloir qu'il mette la ceinture de la vérité à ses reins pour se tenir droit dans la vie. Et un jour, aller voir ses parents et dire « Je vous ai menti. Bon, j'ai reposé la coopérative scolaire sur le bureau du directeur. Personne n'en a rien su, ça s'est arrangé. Mais je vous ai menti. » Et en fait, et si ça n'est pas fait, en fait, cet enfant, il a réparé, il a rendu. Il est pardonné. Par Dieu. Il n'est pas guéri. Et il y a tout un travail à faire auprès de lui pour le faire marcher dans la vérité. Et il a besoin de venir à la lumière et de dire la vérité. Voilà, alors en conclusion, je veux dire ce matin que le témoignage de notre frère nous pousse pour nous-mêmes à dire, attends, mais est-ce qu'il n'y a pas des rendez-vous fondateurs auxquels le Seigneur me convie par rapport au péché? Premier rendez-vous, c'est celui de venir lui dire la vérité de droit. Dire la vérité, même si la vérité fait verser des larmes. Ne craignons pas la vérité. La vérité, toujours. Nous, on se tournicote les idées en se convaincant nous-mêmes parce que ça nous arrange que la vérité va faire plus de mal que de bien. C'est faux. Ça, c'est pas un langage biblique. Ça, c'est le langage du monde. Et puis, nous avons pris l'habitude, entre guillemets, de tout régler, soi-disant, entre nous et Dieu. Eh bien, aujourd'hui, je crois, frères et sœurs, le Saint-Esprit nous pose la question à chacun. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui te taraude, quelque chose de ton passé, quelque chose de ton présent, peut-être même avant ta conversion, comme Acte 19 l'a dit, mais tu n'as pas fait cette démarche. Et quelque part, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas libéré, qui n'est pas guéri. Tu es pleinement pardonné. Mais tu sens que tu as un frein. Il y a une guérison qui n'est pas totalement faite. Si le Saint-Esprit te montre ça, eh bien, demande au Seigneur cette conviction. Seigneur, est-ce que tu veux me conduire à terminer le travail de ta grâce? Le travail de la grâce de Dieu, ce n'est pas que le pardon, c'est aussi la guérison. Seigneur, est-ce que je n'ai pas terminé le travail de ta grâce? Et est-ce que pour cela, tu me dis aujourd'hui d'aller trouver un de tes serviteurs qui puisse être témoin, auprès de qui je puisse déposer ce fardeau, pour qu'il puisse prier, et pour que de ta part, un chemin de guérison se fasse. Ce n'est pas évident, nous préférons croire que tout se règle dans le secret entre Dieu et nous. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Pourquoi? À cause de cette toile d'araignée du péché qui est si complexe, qui va chercher dans notre enfance, dans notre construction. Et nous avons besoin d'autrui. Nous avons besoin d'un tiers, de quelqu'un d'autre, de la part de Dieu, qui soit notre témoin, qui soit notre support, qui soit notre équipier dans la prière et dans le combat spirituel. Voyez-vous, ce chemin de venir à la vérité, à la lumière, c'est le chemin que Jacques qui vient de préciser. Un chemin difficile. Une des choses, et j'en parle par expérience, une des choses les plus difficiles à faire. Et nous? Est-ce que cela fait des mois, peut-être des années, que nous reculons devant ce rendez-vous? Qu'au fond de nous-mêmes, nous savons nécessaire pour être vraiment guéris? Mais on l'écarte. On n'est pas bien, on a honte, se dit, ah, c'est dur, non, c'est pas la peine. Puis on reste fragile, on reste faible. Puis ça peut durer des années. Ça, c'est la question que nous devons nous poser ce matin. Pour une église forte, pour une église qui cesse d'avoir des chrétiens qui sont cachés justement derrière leur masque, là, en montrant des visages où tout va bien, je vais bien, tout va bien dans ma vie, non, jamais. Avec des boulets dans le fond du cœur. C'est pas ça l'église. Parce que l'église, ce n'est pas cette assemblée du Sanhédrin ou des religieux réunis autour de la femme adultère juste pour jeter les cailloux. Mais ce n'est pas non plus ce papa qui va dire à son fiston qui a volé la coopérative scolaire, oh, c'est rien, fiston, c'est rien. Tu l'as rendu? Bon, ça va, c'est pas grave. Allez, on n'oublie pas. C'est vite réglé, ça. Tu n'emmènes pas ton fils voir le directeur de l'école pour mettre les choses au point? Oh non. Vous voyez? Ni dans le jetage de pierre, ni dans une sorte d'absolution complaisante et rapide qui rate le travail de guérison intérieure. Je ne parle pas du travail de pardon. Il n'y a que Dieu qui accorde le pardon et le pardon, il l'accorde pleinement. Amen. Travail de guérison. Pour être solide, pour marcher de victoire en victoire. Ça, c'est une autre histoire. Ce matin, j'ai à cœur de partager cela. En sachant, et je l'ai vécu par deux fois, que c'est un chemin qu'on n'a pas envie d'emprunter et qu'il nous faut toute la grâce de Dieu pour l'emprunter. J'aimerais terminer par un verset Hébreux 13, 7 que j'ai déjà partagé plusieurs fois. Pour conclure, nous avons dit que notre frère, c'est ce chemin libérateur qu'il est parvenu à faire au bout de tant d'années parce que le Saint-Esprit a travaillé dans son cœur profondément. Est-ce que ce chemin, nous allons être capables de le faire? Hébreux 13, verset 7, nous dit la chose suivante. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Oui, ça a été la place que Jacques a eue dans l'Église, qu'il a fondée, qu'il a portée pendant des années. Et quelle est la fin de ce verset? Fin de ce verset nous demande de nous souvenir de nos conducteurs d'une manière toute particulière. Et la voici. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jacques aurait pu terminer son existence sans rien dire à personne, ni vu ni connu, juste entre Dieu et moi. Il ne se sentait pas libéré. Ce chemin, frères et sœurs, le Saint-Esprit l'a fait dans sa vie, dans son cœur, il l'a mené jusqu'au bout et jusqu'à vous, jusqu'à nous, devant ce pupitre ce matin, parce que Jacques est convaincu de l'importance de le faire. Eh bien, nous sommes invités à considérer quelle a été la fin de la vie de nos conducteurs et d'imiter leur foi. Ce chemin vers la lumière et la vérité, notre frère nous l'a montré ce matin, nous l'a montré ce mois-ci. Imitons sa foi. Prions. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui nous prend dans ses bras pour nous, non pas pour nous jeter des cailloux, mais pour parler à notre cœur. Tu nous emmènes parfois dans des déserts, Seigneur, pour parler à notre cœur. Tu ne veux pas te contenter de pardonner 70 fois, 7 fois et continuellement. Tu le fais. Tu veux guérir. Je te prie pour que dans notre Église, tu fasses ce travail dans les cœurs si besoin d'amener à la lumière, à la vérité, ce qui peut-être n'a jamais été. Des situations un peu vagues, un peu où on contourne, où on se débrouille. Seigneur, amène à parler vrai pour être restauré, pour être guéri. Seigneur, amène notre Église à vivre la vraie dimension à laquelle tu nous invites, cette dimension de Jacques 5, de confesser nos péchés les uns aux autres, afin de prier les uns pour les autres, afin d'être guéris. Fais-nous prendre conscience, Seigneur, que nous passerons à côté de la guérison, là où nous n'empruntons pas ce chemin, alors qu'au fond de nous, nous savons, nous sentons bien qu'il y a nécessité de le faire. Aide-nous, Seigneur, à passer par-dessus notre crainte, notre honte. Aide-nous à parler vrai, à marcher dans la lumière, à amener les choses à la lumière, à confesser s'il y a à confesser, pour être libéré et guéri. Et ce matin, tu veux encore faire résonner ces paroles. La vérité vous affranchira. Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Merci Seigneur pour ton œuvre que tu veux faire dans nos vies. Pardon Seigneur parce que notre génération est une génération qui est sans doute faible et fragile parce qu'elle s'est débrouillée à éviter ces moments de vérité, ces rendez-vous douloureux, difficiles mais nécessaires, en tombant dans la complaisance et dans un pardon qui n'apporte pas de guérison parce qu'il ne va pas jusqu'au bout. Seigneur, nous voulons ce matin entendre ta voix au travers de notre frère qui s'est présenté et qui a parlé et qui nous a montré la voie et le chemin, que nous puissions imiter, Seigneur, ce chemin de foi, d'humilité, d'obéissance que tu as mis dans son cœur, que tu nous présentes à tous, que tu présentes à chacun de nos cœurs ce matin. Fais ton œuvre, Seigneur, de guérison, de libération, de restauration, pour que nous cessions une vie faible et fragile et que nous vivions dans la pleine puissance de ta restauration, de ta guérison. Au nom de Jésus. Amen.